Et nous allons donc lire juste deux versets cette fois-ci pour voir le prochain exemple de foi biblique qui doit nous inspirer à persévérer dans la foi en Christ. Et c'est Hébreux 11, les versets 5 et 6. Nous lisons. « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Bon, l'auteur nous parle de cet Enoch. Et je ne sais pas si vous le connaissez bien ou pas, mais souvent Enoch, c'est un de ces personnages qu'on apprend si on va faire un jeu biblique. Et il faut un de ces personnages qui apparaît peu souvent. La Bible nous dit très peu à son sujet, seulement quelques versets. Et donc ça peut nous surprendre que l'auteur aux Hébreux, de tous les personnages qui ont été des exemples de foi de l'Ancien Testament, qu'il aurait pu citer, il cite Enoch. Et cela nous paraît un peu étrange qu'il a même la deuxième place dans cette liste. Mais il faut savoir que Enoch était quelqu'un de très populaire à l'époque que le Nouveau Testament a été écrit. Et pendant les siècles avant et après Jésus, beaucoup d'auteurs vont écrire au sujet d'Enoch. Certains vont même écrire des livres écrits au nom d'Enoch, comme si Enoch lui-même les avait écrits. Et on connaît beaucoup donc d'écrits au sujet d'Enoch en dehors de la Bible, parce que les gens étaient vraiment à cette époque fascinés par ce personnage. Et ça peut nous surprendre, on va lire dans la suite les versets qu'on trouve au sujet d'Enoch, mais il n'y a pas grand-chose. Et pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'intérêt à son sujet ? Bon, pour différentes raisons. Premièrement, et peut-être le plus important, comme le prophète Élie plus tard, Enoch est enlevé, a été une des deux personnes qui a été enlevée par Dieu plutôt que de mourir. Dieu l'a pris, et on ne sait pas plus que cela. Mais déjà, cela, ça peut inviter les spéculations, les réflexions de dire qui était cet homme que Dieu a pris, que Dieu a enlevé. Et donc, c'était nécessairement quelqu'un de fascinant. Deuxièmement, Enoch était le septième homme à partir d'Adam. Et si on aime bien les chiffres bibliques, on sait que 7, c'est vraiment l'idée de la perfection de ce que Dieu fait. Dieu a créé le monde en 6 jours, mais le septième jour, il se repose. Il y a 7 jours dans la semaine. Et l'idée de 7, c'est l'idée d'une certaine plénitude divine. Et donc le septième homme, on va dire, bon, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Quand on lira un peu sur sa vie, on voit qu'il a vécu une année d'années. Il a vécu 365 ans. Et donc, on pense, c'est de nouveau cette idée de quelqu'un qui a une plénitude. Et puis, il est le papa de Mathusalem, qui était l'homme le plus âgé qui a jamais vécu. Et donc, il y a toutes ces choses qui peuvent susciter l'intérêt. Donc, ça, c'est une des raisons que les gens écrivaient à son sujet. Et puis, l'autre, c'était qu'il y a très peu d'informations à son sujet. Donc, on peut inventer ce qu'on veut, vu que la Bible ne nous dit pas beaucoup à son sujet. C'est beaucoup plus dur d'inventer des choses sur David, parce que la Bible nous parle de beaucoup de son histoire. Mais Enoch, c'est facile. Si vous voulez écrire un truc sur lui, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce qu'il n'y a que 3 versets qui vous embêtent, entre guillemets. Et donc, pour cette raison, on parlait Enoch, c'était un grand sujet de l'époque. Pourtant, l'auteur aux Hébreux, il ne va pas citer toutes ces traditions, ces hypothèses, toutes ces histoires au sujet d'Enoch, il va se limiter à dire ce que la Bible nous dit au sujet d'Enoch. Et ça, c'est suffisant déjà pour apprendre au sujet de la foi. Voici ce que nous lisons donc dans Genèse chapitre 5, les versets 21 à 24. Et si vous voulez garder un doigt dans Hébreux 11, parce qu'on va y revenir, on peut voir ce passage qui nous parle d'Enoch. C'est Genèse 5, versets 21 à 24. Voici ce que la Bible nous dit à son sujet. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. Bon, voilà ce que la Bible nous dit sur Enoch. Et peut-être que vous avez déjà remarqué une petite différence entre ce que l'auteur aux Hébreux dit à son sujet et ce que nous avons dans Genèse chapitre 5. Et c'est pas une grande différence, mais on peut quand même le mentionner. Genèse chapitre 5 dit que Enoch marcha avec Dieu et puis il fut enlevé. Mais l'auteur aux Hébreux, quand il cite, il dit qu'il a reçu le témoignage qu'il a plu à Dieu avant d'être enlevé. Et il ne s'agit pas ici d'une erreur. Juste que vous soyez au courant, c'est pas comme si l'auteur des Hébreux ne se souvenait pas de l'Ancien Testament. Mais il est en train de citer pas l'Ancien Testament en hébreu, ce qui est la base de notre traduction, mais l'Ancien Testament en grec. Et des siècles avant, donc les rabbins, les experts de la loi, ont traduit la Bible de l'hébreu au grec. Ils voulaient exprimer cette idée de marcher avec Dieu pour que les Grecs puissent le comprendre. Et ils disaient donc, quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est quelqu'un qui plaît à Dieu. Et effectivement, si on réfléchit à ce que veut dire marcher avec Dieu, de suivre sa volonté, d'être le compagnon de Dieu, de l'avoir à ses côtés, d'être quelqu'un qui cherche à suivre son chemin, effectivement, c'est une vie qui plaît à Dieu. Et donc ici, il ne s'agit pas d'une erreur, mais simplement, là, l'auteur aux Hébreux cite le texte standard en grec, un peu comme si moi je citais la Tob quand je faisais un enseignement, et puis vous regardez dans une autre traduction, c'est pas tout à fait la même chose. Mais il parle de la même réalité, qu'on dise marcher avec Dieu ou plaire à Dieu, c'est l'idée d'une vie pleinement orientée vers la volonté et l'amour de Dieu. Est-ce que ça va, vous suivez pour ça? Bon, on va y revenir dans la suite. Mais voici donc ce qui est essentiel. Si quelqu'un marche avec Dieu, ou si quelqu'un plaît à Dieu, alors forcément cette personne doit être quelqu'un de foi, doit vivre une vie de foi. La logique là est importante. Dans Hébreux chapitre 11, au verset 2, nous avions lu que c'est à cause de la foi que les anciens ont reçu un bon témoignage. Que les anciens reçoivent un bon témoignage à cause de la foi. Or, Enoch reçoit un bon témoignage, n'est-ce pas? Il a plu à Dieu. Et un peu plus tôt, au chapitre 10, le verset 38, donc juste quelques phrases avant, on lit cette parole de l'Ancien Testament citée par l'auteur, où dit « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Le juste vit par la foi, mais celui qui ne vit pas par la foi, qui se retire, pour Dieu ne prend pas plaisir en lui. Et donc nous avons dans Enoch, en lisant l'Ancien Testament, la double confirmation qu'il est quelqu'un de foi. N'est-ce pas? Parce qu'il a reçu le bon témoignage. Et c'est ceux qui vivent par la foi qui reçoivent le bon témoignage. Et puis, deuxièmement, parce qu'il fait plaisir à Dieu. Et si on n'a pas la foi, on ne peut pas faire plaisir à Dieu. Donc, malgré le fait que Genèse 5 ne parle pas de la foi, ne donne pas une belle histoire comme avec d'autres personnes comme Noé ou comme Abraham pour montrer sa foi, nous savons, à cause de ce que Dieu a dit à son sujet, qu'il est quelqu'un qui a vécu avec foi. Et donc, ayant montré qu'Enoch, un peu le héros de l'époque, celui dont tous les théologiens, dont tous les auteurs voulaient parler, bon, l'auteur aux Hébreux nous dit, si on lit l'Ancien Testament, nous pouvons voir que c'est quelqu'un qui était de foi et que nous pouvons imiter aussi. Et donc, ayant dit cela au verset 6, toujours dans Hébreux 11, il va conclure en disant, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et là, donc, il arrive dans l'encouragement, dans l'exhortation pour les chrétiens. Et donc, j'aimerais juste parler de trois choses que nous apprenons au sujet de la foi et de la vie en Dieu à partir de ce passage et à partir de l'exemple d'Enoch. Trois choses qui sont nécessaires, donc, pour être comme Enoch, des gens qui plaisent à Dieu. Premièrement, ce que nous voyons, c'est que la foi nécessaire pour plaire à Dieu implique la croyance en l'existence de Dieu. Il faut croire que Dieu existe. Et cela nous semble évident, n'est-ce pas? Mais même 2000 ans, un peu moins de 2000 ans après que ce passage a été écrit, cela nous parle toujours. Parce que nous vivons dans une société où l'athéisme est très populaire, voire même encouragé dans notre culture. Et l'idée de dire, bon, Dieu n'existe pas, bon, c'est une vision très à la mode, n'est-ce pas? Mais ce passage nous parle, en nous rappelant, si nous voulons plaire à Dieu, le point de départ, c'est de croire qu'il existe, qu'il y a vraiment un Dieu. Et donc, notre vision du monde, notre vision de nos actions, de comment fonctionne le monde, nos attentes pour l'avenir, notre manière de se traiter les uns les autres, tout cela dépend du fait que nous croyons qu'il y a un Dieu, que Dieu existe. Et donc, cela change notre manière d'aborder la vie, de notre manière de traiter les autres. Mais ce serait, je crois, une erreur de s'arrêter simplement là. Pour un Hébreu, pour un Israélite, de dire que Dieu existe, c'est plus que juste une question philosophique ou religieuse abstraite, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, dans l'Exode chapitre 3, il lui dit son nom, n'est-ce pas? Il dit « Mon nom c'est Yahvé, c'est Je suis. » Et tu diras à Israël « Je suis le Dieu qui est. » Et c'est le même verbe pour le Dieu qui existe. Et quand on dit Dieu qui existe, je crois que surtout pour ces chrétiens hébreux, il y a cette notion, ah, c'est le Dieu réel, le Dieu qui existe vraiment, Yahvé, le Dieu d'Israël. Le Dieu dont le nom est « Je suis ». Et je crois que dans cette phrase de l'auteur aux Hébreux, dans cette prédication, quand il dit qu'il existe ou qu'il est, tout simplement, il y a cet écho de toute l'histoire d'Israël avec Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu, mais c'est le Dieu d'Israël. Le Dieu est Père de Jésus-Christ qui existe. Et donc, je crois que c'est une erreur quand on parle de ce fait que Dieu existe, de s'arrêter un peu à la question aujourd'hui. Qu'on se posait même dans la cour d'école quand j'étais jeune, c'est « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Et quand on dit « Est-ce que tu crois en Dieu ?», on veut simplement dire « Est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu ?» quelque part. Mais on ne va pas plus loin que cela. Ici, de dire que la foi, c'est d'abord de croire que Dieu existe, c'est de croire dans le Dieu qui est, le Dieu d'Israël, le Père de Jésus, celui qui est révélé en lui et dont le chemin a été ouvert par le sang de Christ. La foi dans ce Dieu-là et aucun autre. Voilà la foi qui plaît à Dieu. C'est bien de commencer par la foi dans un Dieu, surtout dans un monde d'athéisme. Mais il faut connaître ce Dieu personnel, tel qu'il est. Il faut rappeler, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit « Car celui qui s'approche de lui, ce Dieu n'est pas un Dieu abstrait ou un Dieu distant. Il est le Dieu dont on peut s'approcher. » Le Dieu qui est là. Et de nouveau, c'est des rappels de ce qui a déjà été enseigné avant. Dans Hébreux 10, les versets 21 et 22, nous lisons ce que Christ a fait pour nous. « Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Voilà le Dieu en qui nous croyons. Le Dieu dont nous croyons qu'il existe, le Dieu qui est. C'est un Dieu qui est accessible, à qui nous pouvons venir. Il n'est pas le Dieu distant des philosophes français des Lumières, celui qui a créé le monde et qui s'est séparé du monde. Il n'est pas un Dieu qui nous donne un code moral et puis qui nous demande de nous débrouiller jusqu'à la mort. Et puis après, on verra. Il est le Dieu qui est présent, qui a une volonté, qui désire que nous le suivions, mais qui est présent, qui donne son esprit, qui s'est fait connaître en Jésus-Christ et qui nous accompagne jour après jour. Et en plus de tout cela, il est le Dieu qui veut notre bien, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui prépare une récompense pour nous, le Dieu qui envoie son Fils mourir pour nous. Voilà le Dieu en qui nous croyons, un Dieu qui est bon, qui est présent, qui nous aime, qui n'est pas indifférent. Si nous n'avons pas cette foi en Dieu, si nous n'avons pas cette conviction à son sujet, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Si nous ne croyons pas qu'il est le Dieu qui existe, qui est là, qui est présent, qui nous voit, bon, on ne peut pas lui plaire parce qu'on ne peut pas chercher une relation avec lui. Ce serait impossible. Donc ce passage est, dans un sens, une condamnation de l'athéisme, de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Mais bien plus que cela, c'est une condamnation de l'athéisme pratique, qui est peut-être plus fréquente. De dire, oui, je crois qu'il y a un Dieu, mais ce que cela implique n'est pas important. Je crois qu'il y a un Dieu, mais on ne peut pas le connaître. Je crois qu'il y a un Dieu, mais il s'en fiche de comment je vis ma vie. Et toutes ces choses sont à rejeter si Dieu est vraiment le Dieu qui est le Père de Jésus-Christ, le Dieu d'Israël. Donc notre question que nous pouvons poser, si nous croyons que Dieu existe, c'est que faisons-nous pour faire connaître ce Dieu aux autres ? Si pour plaire à Dieu, il faut croire en Christ, est-ce que nous sommes des témoins à nos amis, à nos collègues, à notre famille qui ne le connaît pas encore? Est-ce que nous pensons vraiment qu'il faut qu'ils connaissent et qu'ils croient en Dieu? Qu'ils connaissent Dieu en Jésus-Christ? Est-ce que nous essayons par nos paroles, par notre exemple, par nos actions, de les amener dans la foi dans le vrai et seul Dieu? Bon, si nous sommes convaincus que c'est seulement par la foi en lui qu'on peut plaire à Dieu, nous allons faire ces efforts. Et bien sûr, de parler de cette foi unique et même exclusive en Dieu est difficile dans un monde pluraliste, dans un monde où toutes les religions sont prêchées et sont mises à niveau. Et c'est un peu un crime de penser, n'est-ce pas, de dire qu'il y a un seul Dieu qui est réel, ou un seul Dieu, une seule foi qui peut faire plaisir à Dieu. Mais c'était la même chose pour ces chrétiens du premier siècle. Ils vivaient dans une culture très pluraliste, très tolérante, sauf si on disait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ils étaient prêts à faire ce sacrifice. Bon, donc il y a cette foi qui croit que Dieu existe, qu'il est là, qu'il est présent et qu'il le connaît. Mais deuxièmement, la foi qui est nécessaire pour plaire à Dieu est pleine d'espérance. Cette foi que nous avons affecte non seulement comment nous voyons Dieu aujourd'hui, mais aussi comment nous voyons et nous attendons l'avenir. Et il y a cette conviction, non seulement que Dieu existe, mais qu'il récompense ceux qui le recherchent. Et de nouveau, tout ce qu'il dit ici, c'est des échos des enseignements avant. Dans Hébreux 10, 35, il avait encouragé les chrétiens en disant « N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. » Et le chrétien vit sa vie avec le regard vers l'avenir, avec le regard vers l'accomplissement des promesses de Dieu. En sachant qu'aujourd'hui, dans le présent, il y aura des souffrances, il y aura des difficultés, il y aura des sacrifices, il y aura même parfois le rejet et même la mort, mais qu'à l'avenir, il y a une récompense de Dieu qui nous attend. Et donc, nous voyons dans l'exemple d'Enoch quelqu'un qui a reçu cette récompense de Dieu, n'est-ce pas? Il est l'exemple de celui que Dieu a récompensé, non seulement en disant « tu me plais », mais en le prenant pour être avec lui. La foi en Christ a toujours pour fruit l'espérance, a toujours une vision non seulement positive, mais glorieuse de l'avenir. L'espérance que nous n'avons, et c'est l'espérance des choses que nous n'avons pas encore, n'est-ce pas? C'est d'un monde renouvelé, de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, de la résurrection et de la vie éternelle. Et pour l'instant, cette espérance est invisible. Si on nous demande, bon, montre-moi la preuve tangible de cette espérance, nous ne pouvons que dire, bon, il y a Jésus ressuscité et ses promesses. Mais on ne peut pas le montrer comme cette table, comme d'autres choses. C'est par la foi que nous avons. Mais la foi qui plaît à Dieu, c'est une foi pleine d'espérance. Et ça me fait penser à ce passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 14, où Paul parle aux chrétiens qui sont endeuillés, en leur disant « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Nous avons une espérance parce que nous croyons en Jésus. Et cette espérance, c'est de la résurrection, de la vie éternelle et d'une récompense pour cette vie. Nous ne savons pas si notre vie va se terminer comme celle d'Enoch. Probablement pas. Et nous ne voyons pas et nous ne verrons pas toujours la récompense de Dieu dans cette vie. Même si parfois, bien sûr, Dieu nous bénit. Mais parfois, en réponse à la fidélité, on va recevoir la déception ou la souffrance. Ces chrétiens qui ont reçu la lettre ont reçu la privation des biens, le rejet, la solitude. Parfois, on peut vivre même la dépression et le découragement à cause de la fidélité. Mais si nous croyons que Dieu récompense ceux qui le recherchent toujours, il y a une espérance au-delà de ces choses. Que ces souffrances, que ces épreuves ne sont pas la fin, mais qu'il y a une attente glorieuse qui vient. Et la conviction de notre foi, c'est que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, et que si notre priorité dans la vie, c'est Dieu lui-même, de le connaître, de le trouver, de lui être agréable, si ça c'est notre but, alors Dieu va s'occuper du reste. Dieu va récompenser ces choses, et nous ne devons pas nous inquiéter. Dans la vie et dans la fin de l'histoire d'Enoch, on a en quelque sorte une préfiguration, une image de ce qui va nous avenir. Nous ne savons pas les détails de comment Enoch a été enlevé. On ne sait pas ce que ça veut dire exactement. On ne sait pas si c'était une ascension, exactement comme Élie. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais il y a assez là pour dire que c'est une image de ce qui va nous arriver. Je ne crois pas qu'il a été ressuscité avant non plus. Mais Enoch a plu à Dieu et Dieu l'a pris. Et il n'a pas vu la mort. Bon, c'est ce que nous attendons dans un certain sens. Si nous vivons par la foi ce qui plaît à Dieu, nous savons que même si nous voyons la mort, nous n'allons pas rester dans la mort. Mais la mort sera vaincue. Et que Dieu va nous prendre aussi, pas pour disparaître, mais pour être avec lui pour l'éternité. Et donc, comme Enoch, nous avons cette espérance et cette récompense qui est là devant nous. Et pour nous, au quotidien, vous savez, l'espérance, c'est une réponse à la crainte et aux soucis. Si nous savons que Dieu récompense ceux qui le recherchent, et si notre priorité, c'est de chercher Dieu, alors on peut avoir la paix et même la joie à travers les difficultés. On a raison de réfléchir et de se faire du souci pour les choses dans la vie, parce qu'on a des responsabilités. Mais les soucis professionnels, les soucis que j'ai pour les enfants, ou les soucis qu'on a pour nos parents, pour nos amis, pour les malades, pour l'église ou même la société, ces choses parfois peuvent détruire notre joie et détruire notre assurance. On peut passer toute la journée et toute la semaine à penser à toutes les choses qui vont mal et avoir la crainte pour l'avenir. Mais si nous avons cette conviction que Dieu est là, que Dieu récompense ceux qui le cherchent, cela nous donne la paix lorsqu'on s'en rappelle, n'est-ce pas ? De dire Dieu sait ce qu'il fait, il prépare une récompense. Et même si je ne contrôle pas toutes ces choses, même si j'ai la crainte pour l'avenir et ce qui vient, je sais qu'à la fin du chemin, Dieu règne et Dieu va récompenser ceux qui le cherchent. Et je pense à ce passage qu'on verra à la fin du chapitre 11 d'Hébreux. C'est Hébreux 11, 40, où l'encouragement est celle-ci. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin que donc, les saints qui étaient pleins de foi ne parviennent pas sans nous à la perfection. Et malgré nos soucis, malgré nos craintes, notre foi, c'est la même. Que Dieu prévoit quelque chose de meilleur pour nous, au bout du chemin, à condition que nous restions fidèles. Bon, une foi qui dit que Dieu existe et qui le connaît. Une foi qui est pleine d'espérance. Et finalement, la foi nécessaire pour plaire à Dieu change notre manière de vivre. Ce serait une erreur assez grave de limiter la foi à simplement un exercice intellectuel, n'est-ce pas ? À la simple croyance de doctrine, mais sans effet dans la vie. Et je ne sais pas si vous saviez, mais dans l'Ancien Testament, le mot foi et le mot fidélité sont synonymes. C'est le même mot. Si on voulait dire que quelqu'un a la foi et que quelqu'un est fidèle, on disait la même chose. Enoch est foi, est plein de foi, ou Enoch est plein de fidélité, c'est la même chose. Mais cette fidélité, c'est la notion d'une vie vécue, n'est-ce pas ? Où on garde parole, on est digne de confiance. Et dans Hébreux 10, 38, le passage qu'on a vu avant, qui cite l'Ancien Testament, l'auteur aux Hébreux dit que mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire, la foi est vécue. On vit en fonction de ce que l'on croit. Et comme on a vu, plaire à Dieu, c'est synonyme de marcher avec Dieu. Et la foi qui plaît à Dieu, c'est une foi vécue. Ce n'est pas simplement la réflexion au sujet de Dieu. Ce n'est pas simplement dire des belles paroles au sujet de Dieu. Mais c'est au quotidien de vivre dans l'obéissance et de faire sa volonté. Tous les exemples des héros de la foi que nous verrons dans Hébreux chapitre 11 sont des exemples de gens, pas qui ont écrit des belles choses, même si parfois ils l'ont fait, pas qui ont dit des belles choses ou qui ont seulement cru des belles choses, mais qui ont fait de belles choses, des œuvres de foi pour Dieu. Et une foi qui n'a pas la vie vécue derrière est morte. Une foi sans les œuvres n'est pas vraiment la foi du tout. Si nous avons la foi, nous croyons. Et si nous croyons en Dieu, alors notre but, c'est de plaire à Dieu avec notre vie. Et cette idée, je veux vivre ma vie pour plaire à Dieu, ça m'a fait penser à la fête des Pères. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais le 3 juin, c'était la fête des Pères en Suisse. Et pour les Américains, c'est aujourd'hui. Et c'était chouette. Donc, ce matin, j'avais un cadeau de la part de mes enfants, aidé par mon épouse, Martina. Et c'était un cadeau qui m'a fait plaisir. Et j'ai voulu aussi faire un cadeau à mon père pour lui faire plaisir. Et je ne fais pas cela pour que papa m'aime. Et mes enfants n'ont pas fait de cadeau pour que je les aime. Mais parce que je les aime, n'est-ce pas ? Et parce qu'ils m'aiment en retour. Et ça, ça doit être la motivation de notre foi vécue, notre désir de plaire à Dieu. Ce n'est pas pour que Dieu m'aime, mais parce qu'il m'aime. Je veux vivre une vie qui lui obéit. Je veux marcher avec lui. Et nous pouvons donc nous poser cette question. Est-ce que nous vivons, est-ce que nous agissons Est-ce que le but de nos actions, de nos décisions et de notre vie, c'est pour plaire à Dieu? Et donc, je lisais en préparant ce message un livre au sujet de Hébreux 11 qui pose la question. Est-ce que on pourrait voir une différence dans ma vie si je n'avais pas la foi? Si je ne croyais pas en Dieu, si je n'étais pas chrétien, est-ce que les gens autour de moi pourraient discerner une différence dans ma manière de vivre? Ou est-ce que je vis une foi, qui est cachée et qui est tellement discrète qu'on ne peut pas la discerner par mes œuvres? Donc j'espère que notre foi est une foi vécue et une foi visible. Une foi qui plaît à Dieu, nous pousse à dire non au péché. Même quand en disant non au péché, on s'attire le mépris des autres, on peut être mis à l'écart ou on peut se priver d'expériences qu'on aimerait vraiment vivre. La foi qui plaît à Dieu dit non au péché pour lui plaire. La foi qui plaît à Dieu dit oui aux bonnes œuvres que Dieu met devant nous. Que ce soit servir et donner aux autres, même si personne va le remarquer ou personne va dire merci. C'est l'acte d'encourager ceux qui sont découragés, de prier pour les autres, de visiter ceux qui sont dans le besoin. La foi qui plaît à Dieu, c'est une foi qui dit oui aux bonnes œuvres pour Dieu et pour les autres. Et la foi qui plaît à Dieu ose confesser Christ devant les hommes. La foi qui plaît à Dieu ne reste pas cachée. Car nous avons un Dieu qui est merveilleux, qui offre des dons et une récompense merveilleuse, n'est-ce pas? Et nous avons ces choses, si nous avons la foi dans ces choses et dans ce Dieu-là, nous voulons le partager avec d'autres. Et la foi qui plaît à Dieu est une foi audacieuse et visible aux hommes. Bon, la foi qui plaît à Dieu, la foi qu'Enoch a eue, c'est une foi que Dieu existe et qu'il est là, qu'il est présent. C'est une foi qui est pleine d'espérance pour l'avenir. C'est une foi qui est vécue au jour le jour. Enoch a cru en Dieu. Et Enoch a marché par la foi. Et il a reçu le témoignage qu'il a plu à Dieu. Il a reçu sa récompense. Et si nous suivons son exemple, si nous vivons avec la confiance en Dieu, avec l'espérance, si nous marchons avec lui, alors nous recevrons aussi un jour un bon témoignage de la part de Dieu.